va pouvoir commencer ? Allons-y !
Les vrais chiffres de l'industrie en France.
La puissance de l'industrie et de ses machines est si grande qu'elle effraie au premier abord. Mais c'est une puissance bienfaisante qui travaille pour l'humanité.
C'est un texte de la fin du 19e siècle. Au début du 21e, Monsieur Tchuruk, alors président d'Alcatel, avait fait miroiter un avenir fait, je le cite, « d'industrie sans usine ». On sait ce qu'il est advenu de la prédiction. Aujourd'hui, les vents se sont retournés. D'abord, on constate que la perte de la compétence manufacturière peut entraîner celle de l'innovation. Qui plus est, en temps de fragilité de l'euro et de déficit budgétaire, les bilans successifs de la balance commerciale prennent de plus en plus d'importance. Or, les produits industriels y tiennent une part déterminante. D'autres chiffres alimentent l'inquiétude dans l'ensemble de l'Union européenne. La part de l'industrie dans le PIB est à la baisse. Et quelques pays se distinguent par un affaiblissement particulièrement accentué. La France en est, en Allemagne, le glissement est mieux maîtrisé. Cependant, il faut savoir que ces chiffres qui échauffent les polémiques sont censés mesurer le secteur manufacturier. Mais aujourd'hui, où est la frontière des produits manufacturés et des services quand une entreprise propose les uns et les autres et que dans son fonctionnement propre, elle a externalisé des activités d'entretien, de recherche et qu'elle emploie dans sa fabrication manufacturière des ouvriers intérimaires, tous ces contributeurs à l'industrie apparaissent dans la catégorie service. Ah ! Où est le temps où on pouvait s'appuyer sur de vrais chiffres ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Olivier Vievorka, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous connaît comme historien de la Résistance, mais là, on va vous voir en maître d'œuvre. Et c'est un travail utile que vous avez fait, la tête d'une petite équipe, d'un véritable manuel qui paraît chez Perrin, dont on espère qu'il sera réédité, remis à jour régulièrement, et qui s'intitule « La France en chiffres de 70 à nos jours ». Vous n'étiez pas content des rares instruments dont on disposait?
Non, comme enseignant et comme enseignant du secondaire, j'ai beaucoup, beaucoup souffert pour préparer les cours, à la recherche donc de chiffres, de bons chiffres. Et non seulement les chiffres, parfois je ne les trouvais pas, et parfois les chiffres se contredisaient. J'ai donc eu envie de proposer pour mes collègues, et puis aussi pour tous ceux que l'histoire de France passionne, les grands chiffres d'histoire de France, de 1870 à nos jours, tout simplement parce qu'on a ici une forme d'unité. 1870 à nos jours, on peut considérer qu'on a une séquence homogène.
Allez, je continue à vous faire le pitch, c'est un mot que vous aimez bien, pour la France en chiffres. C'est organisé en partie.
Oui.
Démographie, économie.
Oui, oui, oui. Donc les chiffres, ce sont bien sûr les chiffres de la démographie, de l'économie, mais aussi les chiffres de l'histoire politique, par exemple les élections législatives. Alors bien évidemment, aujourd'hui, c'est facile. On a l'impression que sur Internet, on trouve facilement les chiffres des élections législatives. Oui, mais sous la Troisième République, est-ce si facile? Les chiffres des élections présidentielles sous la Cinquième République, un jeu d'enfant. Mais sous la Troisième République, comment le président Lebrun a été élu, etc. Difficile à trouver. Et donc, nous espérons vraiment, d'abord et avant tout, faire une œuvre utile. Offrir une somme couvrant plus de 100 années avec les chiffres essentiels.
Je finis le pitch. Je ne sais pas si c'est un bon argument, ça. 666 pages.
Oui, donc le chiffre symbolique n'a pas été choisi. Pages. C'est gros, mais on a essayé de fournir quand même un outil de travail relativement exhaustif, ce qui nous interdisait de couvrir juste 100, 200 pages. Cela n'aurait pas eu d'intérêt.
Et c'est pas cher, ça c'est un vrai pitch de dire ça. 28 euros. Alors nous avons choisi de parler de l'industrie, parce que c'est un grand sujet de débat aujourd'hui, avec des enjeux politiques qui brouillent la connaissance, et de remonter au début de la Troisième République. Vous dites que ce qu'on explique d'habitude, le retard industriel de la France, le retard bancaire de la France, bah il faut en prendre et en laisser. Nous sommes un pays de transition industrielle, pas de révolution industrielle, mais d'industrialisation quand même.
Oui, vous avez entièrement raison. Nous avons vécu dans les années 50, 60, sur l'idée que la France était en retard. En retard par rapport à quoi ? En retard par rapport au Royaume-Uni qui avait eu la chance apparemment de connaître une révolution industrielle. Et donc, du haut de ses terrils, la Grande-Bretagne nous toisait. En fait, les choses sont plus compliquées. On s'aperçoit que la France n'a pas été en retard par rapport au Royaume-Uni. La France a en fait connu un mode d'industrialisation qui lui est propre. La France a réussi à trouver son chemin vers l'industrialisation.
Pas de décollage accéléré, une subtile gradation.
Voilà. Alors, une subtile gradation, peut-être en dire un mot, tout simplement parce que les Français, dans leur masse, ne veulent pas travailler en usine. Il faut bien insister sur cet élément social important. Le Français est un paysan, et il n'a aucune envie d'accepter les rudes disciplines de l'usine. Donc, il va tout faire pour rester accroché à sa terre. Ce qui veut dire que, par exemple, des modes mixtes, où vous avez un champ, mais où vous avez également un métier à tisser, eh bien ces modes mixtes d'industrialisation vont se poursuivre durant de très longues années.
Et ceux qui s'installent comme ouvriers, sans trop le savoir, dans de grands bassins industriels, voudraient bien rester paysans. On connaît le cas de Carmo pour la mine. Voici le cas maintenant d'un grand bassin sidérurgique, le Creusot. Alors nous sommes... C'est la première époque qu'on va considérer sous la première, troisième république. Et ici, dans le grand manuel de l'époque à destination des petits, le Tour de France par deux enfants.
Regarde, regarde, s'écria André. On ouvre en ce moment le réservoir du haut fourneau. Voilà le fer fondu qui coule dans des rigoles pratiquées sur le sol. Oh, fit Julien en frappant dans ses mains d'admiration. On dirait un ruisseau de feu qui coule. Quand je pense que c'est là du fer...
Ce n'est pas du fer pur, Julien, dit Monsieur Gartal. C'est du fer encore mêlé de charbon et qu'on appelle la fonte. Tu en as vu bien souvent, rappelle-toi, les poêles de fonte et les marmites. Partout, la fonte en fusion coulait dans les rigoles ou tombait dans de grands vases et les ouvriers la versaient ensuite dans les moules. En se refroidissant, elle prenait la forme qu'on voulait lui donner. Ici, on fondait des marmites, des chenets, des plaques pour l'âtre, des cheminées. Là, des corps de pompe, ailleurs des balustrades et des grilles.
Michel Bouquet, alors quand j'ouvre la France en chiffres, je trouve le Creusot, c'est la plus grosse unité de France.
Oui, en 1896, à peu près 10 000 salariés.
Ouais. Alors, vous dites même, parce que c'est beaucoup plus précis, 9 260. Il n'y a pas... de possibilité de parler de l'industrie sans parler des territoires industriels. Aujourd'hui, on parle de districts industriels avec une combinaison de ressources matérielles, de ressources humaines, de ressources bancaires. Il y a ça dans quelques bassins en France.
Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, la France est déjà un peu industrialisée avant le second 19e siècle. Tout simplement parce qu'il faut des forges, il faut des briqueteries, il faut ce genre de choses. Donc on a une industrie qui est une industrie rurale avant tout. En revanche, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir une unification du territoire national par les chemins de fer. Et donc du coup, toutes ces petites unités sont totalement périmées. Totalement périmées en raison de la concurrence. Et donc du coup, des territoires qui sont servis, par exemple, par la présence de ressources naturelles, comme le charbon, vont émerger et se constituer en unités spécialisées, en territoires spécialisés. Et donc on va avoir une véritable géographie industrielle qui va se déployer à partir du second 19e siècle.
Le premier secteur industriel au début du 20e siècle et à la fin du 19e siècle, c'est...
Le textile.
Ouais. Alors on va entendre ici un témoignage d'une époque où la France occupait dans ce domaine le second rang mondial. On est en 1902, enfin... Cette dame, Madame Coursin, qui est interrogée par Jean-Pierre David pour Télé Normandie, a commencé à travailler en 1902, mais elle est interrogée en 68.
Comment ça se passait au début? Ça devait être dur.
Assez. Oui, c'était pas du tout pareil. C'était à la main, beaucoup. Je travaillais beaucoup à la main.
Au début, travaillait-on roué? Vous savez, à petite manière.
J'ai vu, oui, je vous dis, ce que j'ai vu, faire ce qu'on appelait des volumes pour le tissage. Alors pour les navettes, là, qui vont, vous savez... Vous n'avez pas vu ça, vous?
Ah, je n'étais pas né.
Ah non, ah non. Alors, voyez-vous, c'était le tissage à main, alors.
Ça devait être dur.
Ah ben oui, c'était très fatigant d'abord.
Vous faisiez combien d'heures de travail par jour, à peu près?
10 heures.
Oh là là.
10 heures. On commence à 6h30 le matin, on avait une demi-heure à 8h, une demi-heure à 4h. On finissait à 7h le soir. Ah oui.
Vous mangez un petit peu quand même, entre deux, quand même?
Ah, quand c'est la croûte à 8h, je vous dis. Et à 4h, et puis le midi, on avait 1h30. De midi à 1h30.
Et quand vous avez vu arriver les premières machines?
Ah oui, on a eu un monsieur qui était là un bon moment pour monter tout ça. C'est quand ça a marché surtout, voyez-vous. Ils faisaient leur pesée toute seule et puis il n'y avait qu'à y enlever les boudins, là, comme on appelait ça.
Ça doit être formidable.
Oui, c'était bien, c'était beau.
Cette femme, elle nous permet de faire le pont avec la deuxième époque qu'on va considérer. On n'est plus maintenant à la fin du 19e ou début du 20e, on est dans l'entre-deux-guerres. Vous dites d'ailleurs que pour le textile, enfin vous dites, vous montrez avec des chiffres, que le textile, le vieillissement commence, la productivité n'augmente pas aussi nettement que le pensait derrière son métier, Madame Courcin.
Non, effectivement, le textile entre dans une crise relative, tout simplement parce que des investissements n'ont pas été réalisés, parce que on a peut-être des patrons qui manquent de vision. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que le textile va surtout exporter vers l'Empire, qui va être en quelque sorte la chasse gardée du textile français. En revanche, d'autres secteurs apparaissent, c'est l'aéronautique, c'est l'automobile, c'est la chimie, bien évidemment boostée par la Première Guerre mondiale, qui a eu un effet sur l'industrialisation française, qui est tout à fait important.
Comment vous faites des tableaux de productivité et des tableaux d'investissement ?
Alors, les tableaux de productivité et d'investissement, je voulais dire que énormément a été fait par Julie Le Gac, Anne-Laure Olivier et Raphaël Spina. Donc, soit nous nous servons des statistiques qui existent et qui ont été fabriquées par l'INSEE, soit nous utilisons le travail de collègues qui ont fabriqué des statistiques pour leurs objets. Donc, il y a eu un gros travail de recherche historiographique pour essayer d'avoir les chiffres les plus fiables.
C'est du récollement. D'habitude, l'entre-deux-guerres, on la présente comme une époque grise. Vous marquez qu'il y a eu des accélérations et des freinages, et une très belle accélération. Je ne sais pas si l'expression est très connue de nos auditeurs, pendant ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, les scies fabuleuses.
Oui, c'est-à-dire que jusqu'à la crise de 1929, la France est un pays qui se porte plutôt bien. Grâce aux effets de la guerre de 14-18, on a un phénomène de seconde industrialisation. Alors cette seconde industrialisation, elle est portée d'une part par un certain nombre de secteurs, je les ai évoqués, mais elle est également portée, il faut le souligner, par la généralisation de ce qu'on appelle l'OST, l'Organisation Scientifique du Travail, c'est-à-dire la généralisation d'une production en série. Et de ce point de vue, la France fait bonne figure par rapport aux États-Unis.
Allez, on a choisi de surfer sur les hautes eaux. Et la troisième période qu'on va considérer, Olivier Vévorka, dans la France, en chiffres qui paraît chez Perrin, c'est évidemment la période des Trente Glorieuses, et même dans la période des Trente Glorieuses, vraiment le haut de la vague, l'époque où les Français avaient conscience qu'ils étaient dans la progression, l'époque des années 1960. On va prendre comme premier secteur, puisque vous parliez de l'automobile, Renault-Billancourt. On trouve dans la France en chiffres le nombre des deux chevaux et le nombre des quatre chevaux Renault.
Oui. Et là, c'est important.
Qu'est-ce qui est le plus important? Moi, je pensais que c'était la 2 chevaux, mais...
Non, la 4 chevaux tire bien son épingle du jeu, mais il faut souligner que c'est aussi, cette 4 chevaux, c'est pas simplement un pari industriel, c'est aussi un pari politique. Parce que, pour aller vite, les entreprises automobiles françaises rêvaient plutôt de fabriquer des grosses cylindrées. Et donc, en fabriquant une voiture populaire, ce qui est le choix de Le Faucheux, patron issu de la Résistance, patron d'une entreprise nationalisée, il y a un geste politique très fort. C'est l'idée, véritablement, de mettre l'automobile à portée des ménages les plus populaires.
Frémontier, l'auteur bien connu de La Forteresse ouvrière, un ouvrier énarque, c'est assez rare, hein, interroge Michel Hilibert, un ouvrier qui est seulement syndiqué chez Renault.
C'est, disons, une rue normale, une rue de ville qui pénètre d'un seul coup dans une usine. On le voit d'ailleurs, c'est très symbolisé par les grilles, étant donné que d'un seul coup, on se retrouve brutalement au cœur du travail. L'animation finalement est différente en fonction des heures. Vous avez par exemple la sortie du travail qui elle est différente aussi. Vous avez des gens qui sont fatigués, qui sont pressés de rentrer chez eux. Vous avez la nécessité pour des travailleurs immigrés en particulier ou des célibataires de faire leur commission, d'acheter la chemise ou le portefeuille ou enfin tout ce qui peut leur manquer. Là, les câblots ne demandent pas de surgir au jour de la paye pour arriver à faire leur commerce dans de bonnes conditions. On a ces rues, elles nous appartiennent, on est chez nous en quelque sorte.
Où se passent les meetings ou les manifestations quand il y en a ?
Essentiellement Place Nationale. Et toute l'histoire de la régie a toujours été plus ou moins exposée Place Nationale. On y explique aux travailleurs nos intentions.
Au terme d'une longue discussion, Le Conseil national du patronat français a accepté de payer 50% des salaires pendant la durée de la grève avec une modalité de récupération selon les cas, et d'après ce qui vient de se passer, ça ne sera pas le cas de chez Renault.
Vous avez reconnu
Georges Séguy.
27 mai 68, après les accords qu'il ne voulait pas présenter comme des accords de Grenelle et que les gens de Renault refusaient. Il y a même des tableaux des grèves.
Tout à fait.
C'est inouï en 68.
Ah ben c'est la plus grande grève de l'histoire de France.
7 millions de grévistes.
Tout à fait.
Et alors les descendants du CNPF, faut pas qu'ils écoutent, 150 millions de journées non travaillées.
Tout à fait. On peut dire que la France s'est véritablement arrêtée en mai 1968.
Alors les grands secteurs dans ce moment de hautes eaux, vous le disiez, c'est aussi l'aéronautique. Avec vos parents, en 4 chevaux, vous alliez à Orly?
Alors effectivement, c'est une période, l'aéronautique, où prendre l'avion est encore quelque chose d'exceptionnel.
Parce que vous avez les chiffres des passagers qui sont dans la France en chiffres. 4 millions de passagers en 60.
Oui.
Aujourd'hui, c'est
plus de 120. Plus de 120 millions. Donc effectivement, prendre l'avion, c'était quelque chose d'incroyable. Et on allait le dimanche de temps à autre avec mes parents à Orly, comme beaucoup de familles françaises.
Et les terrasses étaient ouvertes qui permettaient de voir les envols.
À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement, pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi, y a de quoi rêver. Des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi,
la marche de l'histoire.
Vol Finnair 854.
Jean Lebrun.
Embarquement immédiat.
Sur France Inter.
Avec Olivier Wieworka, on peut embarquer de différentes façons dans la France, en chiffres, chez Perrin, précieux manuel, premier de la sorte qui vient de sortir. Nous avons embarqué avec le thème industrie. Alors nous sommes à la dernière époque de hautes eaux, dans les années 60, où l'intervention de l'État, je ne sais pas s'il faut parler de l'État colbertiste, est-ce qu'il faut parler de l'État stratège, est absolument déterminante dans les choix.
Tout à fait. Cette intervention de l'État, c'est quand même un peu une nouveauté. Enfin, toute relative, mais il est clair qu'avant la Seconde Guerre mondiale, l'idée que l'État intervienne dans l'économie est considérée comme un crime. Avec la défaite de 1940, qui est considérée comme une défaite militaire, mais aussi comme une défaite économique, l'idée que, au fond, le patronat n'a pas joué le jeu, n'a pas aidé à préparer la France à la guerre, cette idée s'impose. Et donc, ce qui était considéré comme abominable avant la Seconde Guerre mondiale devient quelque chose de revendiqué. Et c'est notamment l'une des revendications du programme du Conseil national de la Résistance de mars 1944.
Alors, il y a la planification indicative.
Indicative. À partir donc des premiers plans, mais cette planification indicative ne l'est pas pour le secteur nationalisé. C'est une planification impérative pour le secteur nationalisé. Or, il pèse lourd.
Et puis il y a l'aménagement du territoire qui intervient aussi dans les choix de distribution de l'industrie. Il y a quand même des secteurs qui restent dans l'ombre. Si on regarde par exemple le chiffre des abonnés au téléphone, il y a un tableau. 1948, vous n'avez pas tous les chiffres de mémoire, je vais vous aider, Olivier Wieworka, avec votre livre. 48, 2 millions d'abonnés. 59, 4 millions à peine. 68, 7 millions. L'envol est très tardif. Et alors vous avez une phrase qui m'étonne. Le général de Gaulle
refusait même de considérer que l'extension de la téléphonie était l'avenir.
Oui, le général de Gaulle ne croit pas au téléphone. On fait du général de Gaulle un très grand visionnaire, ce qu'il a été pour bien des points, mais certainement pas pour le téléphone. Et il fallait attendre des semaines avant d'avoir une connexion téléphonique.
Des mois même, presque autant que pour avoir une deux chevaux. 1969, c'est le départ du général de Gaulle. On est en Bretagne, qui est pourtant le lieu de son dernier voyage officiel. Et c'est de ce côté-là que peut venir la nouveauté en matière de télécom.
La vieille terre armoricaine a constamment compté plus de berceaux que beaucoup d'autres et son économie paraissait figée sous des formes immobiles. La langue bretonne et les traditions, tout en conservant un précieux patrimoine, ne favorisaient pas l'enrichissement au sens économique du mot. Or, la sclérose apparente dont elle souffrait a peut-être représenté la chance de la Bretagne. Tous les choix y étaient possibles puisque tout y était à faire. Par un concours heureux de circonstances, le Centre National d'Études et de Télécommunications, autrement dit le CNET, installé à Issy-les-Moulineaux, se voyait contraint de décentraliser. Et son directeur se trouvait être un Breton, Pierre Barzin, sentimental mais raisonnable. Son choix en faveur de Lannion allait déterminer la vocation bretonne.
Je pense que j'avais plus de chance en décentralisant dans un endroit désert, si vous voulez, mais en même temps agréable à vivre. Et puis aussi dans un endroit où on pouvait avoir la chance d'essayer de faire d'un désert quelque chose de fantastique, comme les Américains par exemple vous font une ville dans un désert. Eh bien j'ai essayé de faire cette opération.
C'est drôle comme la propagande pour la modernisation vieillit beaucoup.
Hein, tout à fait. Vorka. Tout à fait. Oui.
L'intervention de l'État, c'est aussi la constitution de grands groupes qu'on va appeler les champions nationaux dans un premier temps. Et oui, qui vont devenir des champions mondiaux.
Tout à fait, et qui est encouragé notamment par Georges Pompidou, qui lui croit beaucoup dans l'industrie et qui va énormément aider à la constitution de ces champions nationaux. On a une véritable politique industrielle qui est menée par le président Pompidou à l'époque.
Alors si vous voulez bien, on va maintenant basculer dans un dernier, quatrième temps. Déploration, désindustrialisation, nous dit-on. Alors je sais que vous n'êtes pas un historien économique, il y en a dans l'équipe qui a participé à la France en chiffres, mais chacun d'entre nous peut porter des diagnostics. Si on prend par exemple le cas des grands groupes mondiaux, ils vont produire, installer, exporter à partir de filiales étrangères. Il y a une fragmentation de la chaîne de valeur, non ?
Oui, il y a une fragmentation de la chaîne de valeur. Et puis il y a aussi peut-être, me semble-t-il, mais peut-être que je me trompe, l'idée qu'au fond, le destin industriel de la France est derrière lui. Et je ne suis pas persuadé qu'il y ait la même ambition aujourd'hui industrielle en France que celle qui prévalait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu des patrons qui véritablement voulaient que la France se modernise, que la France renoue avec un passé industriel, alors que aujourd'hui l'idée qu'au fond on peut délocaliser, qu'on peut agir aussi sur la variable de l'emploi. Vous aviez une note célèbre de la Fondation Saint-Simon sur de Denis Oliven sur justement le recours au chômage comme solution. Ces éléments me paraissent tout à fait prégnants aujourd'hui.
Mais là, je vais vous faire entrer dans le domaine politique qui ne vous répugne pas. Il y a soit des stratégies de reconquête. Alors ça, c'était la politique Arnaud Montebourg, vous vous souvenez, les 34 plans, la voiture à 2 litres au 100 était l'un des 34. Soit il y a des stratégies alors d'accompagnement. Emmanuel Macron à Nantes, l'autre jour, a parlé de 9 solutions pour aider les entreprises à créer des services et des produits pouvant s'exporter. Et on trouve les transports économes, comme il y avait la voiture à 2 litres au 100 pour Arnaud Montebourg. Ce sont deux stratégies différentes, et la deuxième est souvent préférée par les entrepreneurs qui disent c'est nous qui déterminons les accentuations. De toute façon, il n'y a plus les moyens matériels maintenant pour une autre conception de l'État stratège.
Non, je pense qu'il n'y a plus les moyens matériels. Effectivement, la France est moins riche et l'État a moins de leviers, incontestablement. Ceci dit, il faut aussi rappeler que l'État stratège a été un État stratège brillant, dans certains cas, pensons à Airbus, qu'il a été également un État stratège calamiteux. Pensons par exemple à Concorde, pensons par exemple au plan calcul. La France avait énormément d'avance en informatique, et lorsque le plan calcul a été lancé en 1966, les fruits ont été très mauvais. Donc on a effectivement un État qui parfois est un très bon stratège et qui parfois n'est pas un bon stratège.
Et alors on nous dit, il faut jouer sur les très grands projets, mais aussi sur le tissu des PME et de ce qu'on appelle maintenant les entreprises de taille intermédiaire, ETI. Je vous propose, à propos de celles-ci et de leur heure et malheur, d'écouter ce reportage qui est en fait fort ancien, mais si touchant.
Monsieur Pelletier, directeur général des établissements Saint-Frère, m'a annoncé la fermeture de l'usine. Je lui ai dit, ben, à un moment donné, monsieur le directeur général, je croyais que l'usine de Bormy était saine, vous obteniez le maximum de rendement. Oui, monsieur le maire, vous avez raison. Seulement, je ne sais pas si avec les métiers modernes, ça ira de mal. Avant la fermeture, nous avons fait des pieds et des mains, nous sommes allés dans les différents ministères, au ministère du Travail. Puis après, plus rien.
Avis industriel, la commune de Bormy vous offre un terrain à bâtir de plus de 40 hectares. Canal, gare, nationale numéro 1, téléphone numéro 1 Bormy, qu'on se le dise.
Alors, l'attractivité, là c'est la commune de Bormy dans la Somme qui cherche à attirer, passe par des possibilités fiscales. Il y en a d'extraordinaires en France, vous en parlez, le crédit d'impôt recherche qui font que beaucoup de structures de recherche et de développement s'installent en France.
Oui, tout à fait. Et puis on a un effort considérable de l'État. Globalement, la recherche et développement, c'est à peu près 2,26% du PIB. Mais l'État concourt à 39%, à hauteur de 39%. Donc, il y a un effort de recherche et de développement de la part de l'État. L'un des problèmes qui se pose, et on le voit, c'est le passage d'une recherche de pointe à une recherche appliquée.
Vous avez aussi des tableaux sur les investissements, je l'ai dit. Alors, le taux de marge est assez bas pour l'industrie française, mais l'épargne n'est pas nécessairement très orientée non plus vers l'industrie en France.
Non,
calculez dans la France en chiffres les taux d'épargne.
Tout à fait, parce qu'il y a une peur relative de la part de l'épargnant. L'épargnant, jusqu'en 1945, met des sous de côté dans des valeurs sûres, tout simplement pour assurer sa retraite. Bon, et donc, comme l'investissement en bourse est risqué, effectivement, il peut y avoir un manque de capitaux pour l'industrie. Rappelez-vous que Rothschild disait, il y a trois manières de perdre son argent, les femmes, le jeu et l'industrie. Les deux manières sont les plus agréables, mais la troisième est la plus sûre.
Je vais en échange vous donner une citation d'Emmanuel Macron à Nantes. La clé de notre réussite industrielle, c'est l'invention d'une mentalité nouvelle qui ne reposera plus sur la conflictualité et sur une fausse lutte des classes. Vos tableaux ne sont pas seulement des tableaux économiques, ce sont les tableaux qui concernent la vie sociale. Le monde ouvrier, contrairement aux représentations qu'on a, il est peut-être en train de s'étendre. Parce qu'il dépasse les ouvriers des usines manufacturières.
Alors, il s'étend et il se dilue. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ouvriers qui ne travaillent plus dans l'industrie. Donc, c'est une réalité. En même temps, ce monde ouvrier...
Un centre d'appel, on y vit des conditions ouvrières.
Absolument. Tous les petits métiers dans les industries de service, le nettoyage. Donc, il y a beaucoup d'ouvriers. Donc, le monde ouvrier n'est pas mort. En revanche, la classe ouvrière est sans doute morte, tout simplement parce que avant elle était vertébrée par un certain nombre de valeurs et éventuellement encadrée par le Parti communiste pour une partie. Et aujourd'hui, ces réalités sont mortes.
Merci à vous, Olivier Wieworka, avec votre équipe La France en chiffres chez Perrin, l'équipe de La Marche de l'Histoire, Tristan Gratalon à la technique, Stéphane Ronxin pour la réalisation, Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco.